Vous écoutez, on lit pour vous.
Le mystère de la SLA en Estrie. Beaucoup de questions, peu de réponses. Un texte d'Ariane Coursière et Fanny Arcan, paru le 24 mai 2025 dans La Presse. La baignade est interdite depuis les années 1980 dans ce lac de 1,8 km² en fin de vie. La mère de Mélanie Jolin a habité pendant 50 ans autour du lac Tom Cod, comme on le surnomme ici. Atteinte de la sclérose latérale amyotrophique, SLA, elle s'est éteinte en 2019 à 69 ans. « Ça a été très vite », dit Mme Jolin. Aussi connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig, la SLA est une maladie qui détruit les cellules nerveuses du corps et cause une perte progressive des muscles. La majorité des patients meurent de 2 à 5 ans après le diagnostic. Les cas d'une vingtaine de personnes atteintes de SLA entre 2012 et 2024 et ayant habité dans la MRC du Val-Saint-François avant leur diagnostic ou au moment de celui-ci sont actuellement analysés par la Direction de la santé publique de l'Estrie pour déterminer si la région présente une concentration anormale de cas. C'est Julie Dubois, résidente de Saint-François-Xavier de Brampton, qui a sonné l'alarme à la suite de la mort de son conjoint en janvier 2024 et souligné que plusieurs résidents du secteur semblaient atteints de la SLA. Deux riverains du lac Tom Cod étaient notamment morts de la maladie, selon son décompte. Les premiers symptômes de SLA chez son conjoint, Marco Brindle, se manifestent par de petites décharges électriques au bout des doigts et des crampes dans les jambes, puis par une perte de dextérité dans les mains. M. Brindle consulte des physiothérapeutes, mais les problèmes persistent. C'est lorsqu'il fait un bilan général chez un médecin de famille à l'automne 2020 que le diagnostic tombe. SLA. Il a 57 ans. Il était super en forme. Il faisait du golf, du volley-ball, du deck hockey, relate sa conjointe. Jusqu'en février 2023, l'état de santé de M. Brindle se dégrade lentement. Puis, tout s'accélère. Il doit utiliser un fauteuil roulant pour se déplacer, se faire aider pour manger. Malgré tout, il ne se plaint jamais, se souvient sa conjointe, qui le décrit comme le pilier de la famille. En consultant un médecin à Montréal, Marco Brindle se fait dire qu'il semble y avoir plus de cas de SLA en Estrie. Cette affirmation pique la curiosité de Julie Dubois. Elle se met à recenser les cas dans son entourage. « J'en ai récolté 18, juste dans le coin ici », dit Mme Dubois. Des hypothèses, mais pas de confirmation. Dans les bureaux de la Direction de la santé publique de l'Estrie à Sherbrooke, 5 étudiants en médecine, épaulés par la docteure Mélissa Généreux, font enquête. La docteure Généreux, médecin conseil à la Direction de la santé publique de l'Estrie, explique que le premier objectif de son équipe est de déterminer si la vingtaine de cas jusqu'ici signalés, d'autres pourraient s'ajouter, sont supérieurs au taux d'incidence de la SLA, qui est d'environ 2 cas par tranche de 100 000 habitants par année. En Estrie, on estime qu'il faut s'attendre à environ 10 nouveaux cas de SLA par année. Mais ce sont des estimations à partir d'études, dit la docteure Généreux, qui précise qu'il n'existe aucun taux d'incidence de référence pour le Québec. Dans un deuxième temps, la santé publique tentera de déterminer si des facteurs de risque peuvent être identifiés. La docteure Généreux explique qu'environ 80 cas d'agrégats de SLA ont déjà été recensés dans le monde, notamment autour de lacs au New Hampshire. Tous ont été analysés et très peu de facteurs de risque ont été confirmés, dit-elle. Neurologue spécialiste des troubles neuromusculaires au CUSM, le docteur Rami Massy explique que 10% des cas de SLA sont d'origine génétique. Pour les 90% restants, il y a beaucoup de facteurs de risque identifiés, mais aucune cause définitive. Seul le fait d'être un homme et d'être âgé augmente les risques de contracter la SLA. Parmi les autres facteurs de risque soupçonnés, mais non confirmés, Le Dr Massy cite l'exposition à certaines toxines, aux pesticides et aux algues bleues. Directrice de la clinique de SLA de l'Institut neurologique de Montréal, la Dr Angela Genge indique qu'il y a des associations entre la SLA et certaines activités physiques, comme le football américain et le soccer. Le fait d'avoir été dans l'armée ou d'avoir subi un traumatisme crânien est aussi montré du doigt. La plupart des patients sont actifs, dit-elle. C'est dur d'identifier une cause, car c'est une maladie rare. Probablement qu'il y a plusieurs facteurs qui contribuent à un petit pourcentage de risque, dit le Dr Rémi Massy. La Dr Généreux explique que la maladie pourrait être liée à une interaction génétique-environnement. Dans son enquête en Estrie, elle dit s'inspirer d'un agrégat de cas de SLA apparu dans les Alpes françaises en 2010. Il y avait deux villages avec une dizaine de cas chacun, dit-elle. Ils ne trouvaient pas de facteurs de risque communs. Mais en re-questionnant les habitants, ils se sont aperçus que tout le monde cueillait le même type de champignon sauvage. Il s'agissait d'un champignon aux apparences de morille, le gyromitre, présent dans les Alpes. La docteure Généreux souligne que dans l'enquête, la santé publique pose différentes questions sur des balades autour du lac, sur la piste cyclable qui longe la rivière, sur les cyanobactéries, les champignons, les activités professionnelles. Est-ce que vous avez déjà été militaire? Est-ce que vous avez travaillé dans l'agriculture? Illustre-t-elle. Un comité d'experts est aussi en train d'être formé. Dans le Val-Saint-François, plusieurs citoyens rencontrés par la presse se questionnent sur les possibles liens entre les industries de pâtes et papiers, omniprésentes dans le secteur, et la SLA. Aucune étude n'a encore prouvé de lien de cette nature, note la Dr Genge. Mais ils regarderont ça en Estrie, dit-elle. Le quart des cas étudiés par la santé publique de l'Estrie ont travaillé à l'usine de Domtar à Windsor. C'est le cas de Marco Brindle. Dans une séance d'information publique tenue au début de mai, la santé publique a précisé que ce nombre n'est pas nécessairement étonnant, considérant qu'il s'agit du plus grand employeur de la région. Porte-parole de Domtar, Antoine Cac indique que l'entreprise n'est au courant d'aucune étude ou autre information scientifique liant ses activités à la démarche en cours. Il assure que Domtar collaborera avec la santé publique si demandé. « Nous respectons toutes les exigences réglementaires en place, dont celles du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs », écrit M. Cac par courriel. Aujourd'hui retraité, Serge Lebrun a travaillé à la Domtar à Windsor. Ce grand sportif de 71 ans, résident de Val-Joly, avait l'habitude de jouer au golf fréquemment jusqu'à ce que ses bras commencent à faiblir, début 2020. « À un moment donné, je n'étais plus capable de frapper la balle. Je perdais de la distance. C'est comme ça que ça a commencé », raconte-t-il. Le diagnostic de SLA est tombé en septembre 2020. Serge Lebrun a graduellement perdu l'usage de ses bras. Il arrive encore à marcher sur de courtes distances. Pour combien de temps, par contre, je ne le sais pas, laisse-t-il tomber. Son fauteuil roulant est déjà commandé pour le jour où il sera nécessaire. « On se prépare mentalement », explique sa conjointe Nicole Préfontaine. « On prend ça un jour à la fois. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ?» ajoute M. Lebrun. Enfant, Marie-Ève Choquette passait beaucoup de temps au chalet de sa mère, à Windsor. « On appelait ça « Petteville », tellement c'est puait », relate Mme Choquette en évoquant les émanations odorantes de l'ancienne usine de Domtar. En mai 2023, sa mère a reçu un diagnostic de SLA. Aujourd'hui, elle ne parle plus. Elle est gavée et elle doit utiliser une machine pour respirer. Les tests ont démontré que sa mère ne souffre pas de la forme génétique de la maladie, affirme Mme Choquette, qui se questionne sur le rôle de l'usine de pâtes et papiers dans le diagnostic de sa mère. Pour l'instant, la santé publique ne pointe aucun coupable. « Le but, c'est de comprendre », affirme la docteure Généreux, qui souligne qu'il est probable qu'aucune cause ne soit établie. Mais on va aller jusqu'au bout pour essayer de comprendre, puis répondre à ce mystère-là qui plane dans la tête des gens, à savoir s'il y a ou non un enjeu dans la région, dit la docteur Mélissa Généreux. Julie Dubois, elle, dit avoir peu d'espoir que l'enquête de la santé publique aboutisse à quelque chose, parce que c'est tellement compliqué. Il y a comme plein de petites choses aux alentours qui pourraient être en cause. Mais je suis contente que des chercheurs tentent de trouver une réponse, dit-elle. Je veux qu'ils fouillent toutes les pistes. Est-ce le radon dans nos maisons, les pesticides dans les champs, les algues bleues, les usines? C'est sûr qu'il y a de quoi. Parce que des gens sur la même rue qui ont la même maladie rare, c'est bizarre. Nouveau traitement. Depuis quelques mois, un traitement a été certifié au Canada et permet le traitement d'un certain type de SLA de forme génétique qui représente environ 2 % des cas totaux. Il s'agit d'une injection à recevoir tous les mois qui permet de carrément stopper la maladie, explique le docteur Rami Massi, qui parle d'un traitement révolutionnaire. La docteure Angela Janje indique que ce médicament était à l'étude depuis 1994. Ça a pris beaucoup de travail nous amener ici, mais c'est une étape immense, affirme-t-elle. C'était le mystère de la SLA en Estrie. Beaucoup de questions, peu de réponses. Un texte d'Ariane Lacourcière et Fanny Arcan, paru le 24 mai 2025 dans La Presse. Le mystère de la SLA en Estrie. On dirait que juste notre rue était une grappe de cas. Un texte d'Ariane Lacourcière, paru le 24 mai 2025 dans La Presse. Catherine Hudon ne savait pas trop ce qui se passait à la fin de 2017 quand elle a commencé à avoir de la difficulté à lever un de ses pieds. C'est seulement 6 mois plus tard que la mère de 2 fillettes de 2 et 5 ans, résidente du village de Richemont, en Estrie, recevra son diagnostic fatidique. Sclérose latérale amyotrophique, SLA. Assis sur le balcon de la demeure familiale, le conjoint de Catherine Hudon, Jonathan Garreau, se souvient que le diagnostic a été une véritable tragédie familiale. C'était un coup de masse. On a vécu beaucoup de frustration, confie M. Garreau. Lorsqu'elle consulte au Centre universitaire de santé McGill, CUSM, en 2018, l'une des premières questions que se fait poser Catherine Hudon est celle-ci. « Venez-vous de l'Estrie? » Ça a soulevé beaucoup de questionnements chez nous, dit M. Garreau. Le couple, établi à Richemont depuis 2013, réalise que plusieurs personnes ont côtoyé la maladie dans leur village. « On dirait que juste notre rue était une grappe de cas », dit M. Garreau. Céline Arsenault fait le ménage chez M. Garreau. Son beau-père, qui a toujours habité dans le village voisin d'Ulverton, est mort en 2008 de la SLA. Mon oncle, qui résidait à Danville, à 18 kilomètres au nord de Richemont, est aussi décédé de la maladie, dit Mme Arsenault. Le voisin immédiat de M. Garreau, William Stephen, a aussi été confronté à la maladie. Assis devant chez lui, l'homme raconte que sa belle-sœur, une mère au foyer de Richemont, est morte de la SLA en 2012. À la fin, elle ne pouvait plus marcher. Ça a pris 4 ans. Elle était à la fin soixantaine. C'est une terrible maladie, souffle M. Stephen. Dans les mois suivant son diagnostic, Catherine Hudon, 42 ans, perd tranquillement ses capacités. Celle qui a déjà été directrice régionale pour l'Est de l'Europe de la Fédération mondiale d'hémophilie perd d'abord l'usage de ses jambes, puis de ses bras. À ses 2 petites filles, elle explique que ses muscles se dégonflent comme une balloune. Les filles prenaient une balloune et la faisaient dégonfler, et ça les faisait rire, se souvient M. Garreau. Catherine Hudon ne cache pas la réalité à ses enfants. Elle leur disait qu'un jour, la maladie s'attaquerait à ses poumons et qu'elle en décéderait, dit-il. Moi, j'avais une frustration profonde. Avant, elle rencontrait des ministres de la santé pour son travail. Et là, elle me demandait de l'aide pour la faire manger. En mai 2022, Catherine Hudon fait une crise respiratoire. Elle sait qu'avec la progression inévitable de la maladie, d'autres suivront. Elle voulait donner ses organes, ses reins, son foie et son système respiratoire, affirme son conjoint. Elle m'a dit « C'est pas vrai que la maladie va m'empêcher de donner mes organes. La maladie m'enlève ma vie, mais je vais en redonner trois. » Le 31 mai 2022, Catherine Hudon obtient l'aide médicale à mourir. Elle est partie avec le sourire, sachant que ses organes serviraient, relate M. Garraud. Ce dernier décrit sa défunte conjointe comme une femme ingénieuse, très ouverte d'esprit et très organisée. Ses enfants, c'était sa vie. Avant de décéder, elle m'a fait un agenda des 10 prochaines années avec des trucs à surveiller pour les filles, dit Jonathan Garraud. La mère avait aussi acheté à l'avance plusieurs vêtements en prévision de la croissance de ses enfants. « Je viens juste d'ouvrir les derniers sacs », indique M. Garraud. La famille réside toujours dans sa maison de Richemont. De la fenêtre de la cuisine, on voit la rivière Saint-François. Environ 60% des cas de SLA de la grappe de l'Estrie résident près d'un cours d'eau, a révélé la Santé publique le 7 mai. « Monsieur Garraud a-t-il peur ?»« Non, mais ça reste derrière la tête », dit-il. « Beaucoup de Québécois vivent près d'un plan d'eau », résume-t-il. « Il ne faut pas non plus paniquer ». C'était le mystère de la SLA en Estrie. On dirait que juste notre rue était une grappe de cas. Un texte d'Ariane Lacourcière paru le 24 mai 2025 dans La Presse.
École à la maison, un appel au dialogue avec Québec, un texte d'Anaïs Lauzon-Lorrain paru le 22 mai 2025 dans La Presse. Un garçon de 8 ans qui n'a pas accès à une orthopédagogue. Des jeunes à qui un centre de service scolaire, CSS, refuse l'accès à un laboratoire pour préparer leur examen de sciences. Aucune rétroaction sur les résultats d'examen. Un accès très restreint au service, une seule journée, dans une seule école, pour toute l'année scolaire. Une mère inquiète qui attend depuis 2 ans pour son garçon une réponse à une demande en psychoéducation. Une seule occasion d'évaluation valant 100% de la note pour les matières nécessaires au diplôme d'études secondaires. Les familles éducatrices qui font l'école à la maison se voient refuser les services auxquels elles ont droit. Soyons clairs, l'éducation à la maison n'est pas un choix pour plusieurs familles, mais plutôt une solution de rechange, un dernier recours. Au Québec, plus de 50% des enfants scolarisés à domicile présentent des troubles d'apprentissage, un handicap ou des problèmes de santé mentale auxquels le réseau scolaire est incapable de répondre adéquatement. De plus, les familles qui éduquent leurs enfants à domicile doivent faire une lourde reddition de comptes au ministère de l'Éducation avec la Direction de l'enseignement à la maison, DEM. En contrepartie, la loi garantit aux jeunes scolarisés à la maison certains services offerts par les CSS, mais c'est bien loin de la réalité vécue actuellement. Pourtant, ces problématiques aurait pu être évité si le ministre acceptait de parler aux familles éducatrices. En effet, le ministre de l'Éducation, Bernard Trinville, et son prédécesseur ont refusé de convoquer la Table nationale de concertation, un mécanisme efficace et axé sur le dialogue qui permettait au gouvernement de bien comprendre les problématiques vécues par les familles éducatrices. Un refus qui entraîne des conséquences pour la réussite de nos enfants. Des jeunes de plus de 16 ans sont laissés dans un vide juridique, sans solution claire pour leur diplomation. Des épreuves ministérielles obligatoires, lourdes, mal adapté et inutile pour nos enfants qui apprennent autrement à la maison, coûte cher aux contribuables. Une sanction des études inéquitables, où l'avenir de certains élèves repose sur des règles bureaucratiques rigides qui ne tiennent pas compte de leur parcours atypique et de leurs difficultés d'apprentissage. Actuellement, les familles éducatrices du Québec sont exclues des comités de parents des CSS, n'ont pas accès à un comité d'usagers à la DEM et ne peuvent interpeller le protecteur national de l'élève en tant que groupe. Pourtant, réactiver la table nationale de concertation nous permettrait d'avoir enfin un dialogue constructif et productif pour nos enfants. Depuis 6 ans, nous avons multiplié les démarches pour réactiver la table de concertation, sans résultat. Pendant ce temps, des milliers de familles québécoises font face à un système qui ne les écoute pas, ne les aide pas et leur met des bâtons dans les roues sans tenir compte de leur réalité. Pourtant, nous avons tous le même objectif, la réussite éducative de nos enfants. Monsieur le ministre, qu'attendez-vous pour rétablir le dialogue avec les familles éducatrices? C'était « École à la maison, un appel au dialogue avec Québec », un texte d'Anaïs Lauzon-Lorrain, paru le 22 mai 2025 dans la presse.
C'est difficile par moments. Alex Perron parle de sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer. Un texte de Guillaume Picard, paru le 28 mai 2025 dans Le Journal de Montréal. La relation d'Alex Perron avec sa mère n'est plus la même depuis que la maladie d'Alzheimer dont elle est atteinte a commencé à progresser. Celle qui lui a donné la vie est maintenant en résidence. C'est la découverte d'une autre façon de vivre la relation avec ma mère. Elle est encore au début de la maladie, mais ça change complètement la relation qu'on a. C'est difficile par moments, mais pour moi, en ce moment du moins, ça se vit. Je suis chanceux aussi, parce que ma mère est bien entourée par des membres de la famille, a raconté Alex Perron, qui est enfant unique. Il faut vraiment s'adapter, faire des deuils de certaines affaires, puis comprendre aussi que, tu sais, ses réactions, ses nouvelles façons de s'exprimer ou le fait qu'elle oublie des choses... Bien, ce n'est pas sa faute, c'est la maladie. On vit des émotions, mais on doit les gérer autrement. L'Alzheimer, la perte de mémoire, ce n'est pas quelque chose qui va s'améliorer. Donc, je ne peux pas me faire d'illusions non plus. Parfois, c'est le fun, parfois c'est moyennement le fun, et parfois ça ne l'est pas. Mais ça n'a rien à voir avec elle ni avec moi. C'est juste ça, qu'est-ce que tu veux? Alex Perron passera l'été sur scène dans la comédie Mécanique Raymond au Théâtre des Hirondelles de Saint-Mathieu-de-Belleuil. La pièce de Stéphane Allard, avec qui Alex partage aussi la scène dans « La cage aux folles », met aussi en scène Roger Larue, Myriam Leblanc, Lucien Ratio et Geneviève Rochette. C'était « C'est difficile par moments ». Alex Perron parle de sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer. Un texte de Guillaume Picard, paru le 28 mai 2025 dans « Le Journal de Montréal ».
Des Canadiens malvoyants ou non-voyants découvrent le plaisir de jouer aux fléchettes, un texte de Ernst Judy, paru le 27 mai 2025, sur radiocanada.ca. Une nouvelle ligue de fléchettes pour personnes aveugles et malvoyantes a vu le jour à Windsor, en Ontario. Cette initiative permet à ses membres de découvrir une véritable passion pour le jeu tout en favorisant l'inclusion. Peter Best, aveugle et fervent défenseur des personnes handicapées, explique qu'il a proposé à un groupe de personnes souffrant de déficience visuelle de jouer aux fléchettes, une activité qui demande précision et coordination. Après quelques minutes d'hésitation, l'idée a été acceptée. Il ajoute que le projet a commencé lors d'une séance de remue-ménage à la Légion royale canadienne locale, où il a été proposé de réfléchir à des activités pour la communauté aveugle. La Légion leur a offert un espace gratuit et la Ligue a été lancée en février. Selon Peter Best, la Ligue de Windsor serait la seule de son genre au pays. Comment une personne aveugle joue-t-elle aux fléchettes? La Ligue compte 9 joueurs soutenus par des marqueurs et des guides bénévoles qui aident les participants tout au long du jeu. Un bénévole guide les joueurs, s'assurant qu'ils se positionnent correctement à 8 pieds de la cible et que la zone est sécuritaire avant qu'ils lancent leurs fléchettes. Nous faisons attention à la sécurité. Personne n'a été blessé et tout le monde revient. Une citation de Peter Best, aveugle et défenseur des personnes handicapées. Gary Best, cousin de Peter et guide bénévole, souligne les progrès des joueurs depuis la fondation de la Ligue. Ils utilisent de vraies fléchettes et non des fléchettes en plastique, et ils commencent à bien toucher la planche. Les joueurs sont répartis en différentes catégories en fonction de leur degré de vision. B1 pour les personnes totalement aveugles, B2 pour celles ayant une certaine perception de la lumière et B3 pour celles qui ont une vision partielle. Carole Beaulieu, une joueuse de la catégorie B1, explique que l'objectif de la Ligue est de s'amuser. Je n'avais jamais joué aux fléchettes auparavant et j'ai pensé que ce serait une activité sociale agréable. Elle aime rencontrer des personnes partageant des expériences de vie similaires, surtout après la pandémie, qui a créé un vide d'activités communautaires pour les personnes aveugles et malvoyantes. La Légion a été si accueillante que nous avons le sentiment d'appartenir à un groupe, ajoute-t-elle. Sharon Jarvis, également impliquée dans l'organisation de la Ligue, partage son expérience en tant que personne légalement aveugle. « J'ai beaucoup appris grâce à d'autres personnes faisant face aux mêmes défis. C'est une expérience formidable », déclare-t-elle. Selon Peter Best, l'essence de cette initiative est l'inclusion. Cela montre que, malgré un handicap, on peut toujours trouver des moyens de faire avancer les choses. C'était « Des Canadiens malvoyants ou non-voyants découvrent le plaisir de jouer aux fléchettes », un texte de Ernst Judy, paru le 27 mai 2025 sur radiocanada.ca.